Bonjour, chers amis de Radio Maria. Nous sommes le lundi saint. Hier, nous avons participé à cette belle procession des rameaux et nous sommes dans la dernière ligne droite avant Pâques. Après ce beau parcours de carême, entrecoupé de difficultés, hein, on a tous un peu pris, on est tous dans les cordes entre les décisions du gouvernement sur la question vraiment de la dignité de la personne humaine, de l'avortement, de l'euthanasie, et puis on a tous eu voilà des petits combats dans nos vies familiales, dans nos vies paroissiales, mais nous sommes debout, parfois à genoux, et nous avançons, le regard maintenant fixé vers la croix qui nous annonce la joie de la résurrection. Donc continuons vaillamment, ne restons pas seuls, rendons grâce pour nos prêtres qui vont bientôt se réunir. Et puis, on va vraiment rester en grande union de prière pendant ce triduum qui est vraiment cette montée au calvaire et qui annonce cette joie débordante de la résurrection. On va évoquer ce matin quelque chose d'assez intéressant et d'assez drôle. C'est, je voudrais avec vous dégonfler une baudruche, qui est la baudruche autour des valeurs sportives. Parce qu'on parle beaucoup des valeurs sportives, des valeurs du rugby, des valeurs du football. Et je crois assez peu à cette notion de valeurs sportives. C'est une forme de discours sirupeux sur ces valeurs en général, sur ces valeurs sportives en particulier. Au moment vous savez, des candidatures des villes olympiques, quand toutes les villes font campagne pour recevoir les Jeux olympiques, eh bien, on a des hommes politiques en campagne qui savent très bien faire et qui nous, avec beaucoup, beaucoup de force dans le regard, beaucoup de conviction, nous parlent des belles valeurs incarnées par le sport, la solidarité, l'inclusion, l'esprit d'équipe, la persévérance. Et ces hommes politiques pérorent un peu doctement devant des parterres goguenards d'athlètes de haut niveau qui sont un peu qui ont vécu, vous voyez, un peu comme des vétérans. Ils ont des plaies sur leur corps, sur leur âme. Et souvent, j'étais témoin de ça. Ils écoutent avec un certain détachement cette logorrhée sur les valeurs sportives. Eh ben oui, la valeur sportive, c'est un peu du bidon, parce que la seule valeur, et c'est ce que je voudrais un peu partager avec vous là pendant ce moment, la seule valeur, c'est la patte humaine, c'est la personne humaine. Ce discours sur ces valeurs sportives, ça sonne creux. La valeur qu'on peut retrouver dans le sport, eh bien, c'est une valeur un peu marchande. Voilà, c'est celle un peu d'un marchandage de la rencontre entre l'offre et la demande. Le sport, il vaut bien mieux que cet objet de négoce et de marché. Mais pourtant, voilà, le sport, souvent on en parle ensemble, c'est un carburant médiatique extrêmement puissant. Et à travers le sponsoring, le sport, finalement, il a permis de transférer des valeurs qualitatives autour de la patte humaine vers le marché et vers le business. Par exemple, en investissant dans le golf, un annonceur qui va mettre sa marque autour du golf, d'un événement de golf, il va acheter en quelque sorte le marché de la valeur, des valeurs et des principes attachés au golf. Quand on parle du golf, ben on parle de la sagesse, de la patience, de la précision, d'une certaine aisance sociale. En s'associant au rugby, telle entreprise va acheter le marché de l'esprit d'équipe, de la ruralité, de la masculinité, de l'authenticité ou de l'affrontement. Pour mieux vendre un produit ou un message, tel investisseur, une entreprise, un leader politique ou même religieux, il va venir préempter en quelque sorte, investir un territoire qui va être dépositaire de principes et de règles qui sont projetés par l'image que nous avons de ce sport. J'espère que l'exemple du golf et du rugby vous aura un peu prouvé ce que je dis là. Quiconque a travaillé dans l'industrie du sport, il sait que la valeur, entre guillemets, réside avant tout dans le prix de son audience, dans la négociation de tarifs, de prix entre celui qui détient des droits et un exploitant, dans la confrontation avec un prix et un marché. En discutant de ça, les gens se disent, mais attendez, je suis sur Radio Maria, qu'on parle de Jésus, qu'on parle de... Mais je pense que c'est important que vous compreniez toute la mécanique un peu marketing et business autour du sport. C'est important. Voilà, on est vraiment dans une offre et une demande. Et la valeur, quand on parle des champions aujourd'hui, je dis toujours valeur entre guillemets, la valeur par exemple indécente d'un champion de foot, on pense par exemple à Mbappé qui devrait rejoindre le Real de Madrid, et ben c'est quoi? Et ben c'est celle de l'actualisation des revenus futurs, des cash flows que va procurer le fait qu'il rejoigne le Real de Madrid et le fait qu'on puisse vendre des produits à partir de ses followers sur les réseaux sociaux, de vendre ses maillots, etc. Donc, on est un peu comme une sorte de bourse aux esclaves où un homme, eh ben, il va valoir 250 millions d'euros. Mais les 250 millions d'euros, bah, c'est sur plusieurs années, finalement, le cumul de tous ces millions de maillots qui vont être vendus. Loin de tous ces délires spéculatifs et mercantiles qui sont le reflet d'une économie de marché, avec une demande et une offre, et puis avec derrière, finalement, une sorte un libre regard, hein, sur tout ça. Ce qui est intéressant, c'est d'interroger quand même ceux qui sont au cœur de tout ça, les vétérans de tous les combats qui, eux, finalement, je l'évoquais tout à l'heure, dans leur chair, dans la mémoire de leur corps, ils n'ignorent pas que la seule valeur qui importe, c'est celle de la vie de la personne humaine. Ils savent, pour l'avoir vécu, que dans le sport, par tous les exercices que le sport impose, le sport vient attaquer, modeler, polir la patte humaine. Moi, j'ose le dire aujourd'hui, en face, hein, le sport, il n'a pas de valeur en soi. Le sport, il appartient à personne. On voit qu'il est désiré par beaucoup. Le sport sera le dépositaire finalement utile des valeurs qu'on lui prête et qui va venir justifier les discours inspirés ou voire même totalitaires. Les décideurs politiques comme les décideurs religieux, ils ont compris l'impact du sport qui attire, qui inspire. C'est un puissant média, on l'a sûrement évoqué, et c'est un réceptacle à travers les images, à travers toutes les animations, même la culture autour du sport. C'est un habile réceptacle de messages que tous ces décideurs, tous ces investisseurs vont vouloir véhiculer autour de ces pseudo-valeurs. Parfois, on va capter un peu le discours sportif de façon naïve et désintéressée. C'est parfois un peu ce que je fais avec vous. Voilà. Je vais récupérer un peu le discours sportif pour vous parler des principes qui guident notre vie, qui font que nous sommes des personnes avec des principes, qu'on croit à des vertus humaines. On parle beaucoup ici de vertus. Et j'utilise une forme de douce pédagogie qui va emprunter à la métaphore sportive pour servir le bien commun. Et puis, nous, on va un peu plus loin. Vous savez, le sport, c'est le dépassement du dépassement pour nous conduire les amos Christ. Mais parfois, on va utiliser aussi le sport pour célébrer l'ego de tous ces décideurs, asseoir leur pouvoir, leur réputation, pouvoir aussi anesthésier les foules. On peut le voir aussi dans le cadre des Jeux Olympiques ou des grands championnats. On voudrait mettre les gens sous perfusion. On va les gaver de messages sportifs, les gaver de compétitions sportives pour qu'ils puissent parier, pour qu'ils puissent rester devant leur canapé et finalement pour qu'ils puissent ne plus penser et pour qu'ils puissent éventuellement ne plus se révolter. On disait que la religion était l'opium du peuple, mais le sport business aujourd'hui peut être aussi une forme d'opium du peuple pour mieux servir ou asservir les foules et laisser finalement tranquilles les dirigeants et puis les producteurs, leur permettre de toucher un marché et puis de permettre au maximum de consommateurs qui sont hypnotisés par le sport de consommer de façon douce, doucereuse, et puis de façon la plus addictive possible. Voilà. Mais la vraie richesse du sport, c'est la personne humaine. En 1984, Saint-Jean-Paul II, lors d'une rencontre avec des sportifs de haut niveau, avait bien précisé que la finalité du sport, c'était la promotion et la célébration de la dignité de la personne humaine. Le sport se vit par la transpiration, se vit par l'ascèse, davantage qu'il ne se décrète. C'est un instrument vraiment de développement de la personne et les grands sportifs sont un peu comme les vétérans de nos armées. Ce sont des personnes qui s'engagent, qui s'exposent et qui préfèrent faire que bavarder. Ce sont des doers, comme on dit aux États-Unis, davantage que des speakers. Ils ne sont pas là pour discourir, pour bavarder, ils sont là pour faire. Et j'aime beaucoup, vous savez, travaillant auprès des chevaliers de Colomb, ils évoquent bien souvent cette foi en acte, la foi en acte. La foi... sans acte, c'est comme un arbre sans fruit. Foi, finalement, et charité à travers les actes se nourrissent. Et Cocteau disait, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Le sport, il convoque l'unité de notre personne, notre corps, notre esprit, notre âme, et il va venir révéler toutes les tensions de notre humanité. ce qui est magnifique dans le sport, dans le théâtre sportif, et puis qui nous montre au gré de ces rites et de ces rythmes de la vie sportive, cette humanité pétrie par la vie, consolidée par tous les apprentissages, mais aussi finalement qui va venir être authentifiée par toutes ces purifications aussi que le sport impose. Je me souviens, lors de la finale de la Coupe du Monde de football en 2002, on est en finale, il y a un contexte étouffant de suspense. La France avait gagné en 98. Il y a plusieurs milliards de téléspectateurs qui sont devant leurs écrans. Le temps mondial est comme suspendu. Et le magicien Zinedine Zidane, qui a marqué au début du match sur une Panenka, vous savez, ce ballon suspendu dans un pénalty. Donc on joue énormément sur l'anticipation du gardien et sur une feinte, ce qui peut être un peu humiliant. Eh bien, Zinedine Zidane a traumatisé le monde du sport en délivrant son célèbre coup de boule au défenseur italien Materazzi. En pétant un câble, en dérapant en quelque sorte, il est venu pulvériser le beau discours sur les grandes valeurs du sport magnifiées par tous ces prêtres du marketing sportif. Le génie Zidane, dans un surgissement d'humanité, quelque part il a hurlé à la face du monde qu'il n'était pas un robot pré-programmé, un acteur déroulant un scénario totalement maîtrisé. C'est comme si Zidane avait voulu déchirer, vous voyez, la feuille en papier glacé qui présente les sportifs comme des grands saints, qui à coup de millions d'euros de sponsoring acceptent toutes ces injonctions de perfection, ils doivent sourire, etc. Et là, il a craqué, Zidane, devant, au moment ultime et devant plusieurs milliards de personnes. Oui, Zidane a craqué, il a fauté quelque part. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est juste seulement resté un enfant. Il est resté cet enfant qui, malgré toutes les recommandations des experts, des sponsors, de ceux qui, à coup de millions d'euros de contrats de sponsoring, voulaient en quelque sorte en faire une sorte de perroquet, complètement contrôler son comportement, eh bien, finalement, malgré toutes ces recommandations, Zidane, tel un enfant, a pété un plomb parce qu'il ne supportait pas que sa mère soit insultée par le défenseur Materazzi. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce que font tous les enfants sous le préau de la cour de récréation quand une fois, deux fois, trois fois, on insulte leur mère, leur sœur. Il a dégoupillé, il a cogné. Il s'est comme libéré de sa rage. Il a voulu se rendre justice, il a voulu aussi rappeler que toutes les règles sportives, même les plus vertueuses, ne peuvent à un moment donné substituer aux agressions humaines les plus perfides et dans ce cas les plus viles. Il sait qu'il aurait dû évacuer cette colère. Le cato, il aurait dit, dans cette tension entre la force et la tempérance, il aurait dû jouer la tempérance. Il aurait dû enfouir cette injustice. On parle aussi de la vertu cardinale de justice, de prudence. Et il aurait dû finalement faire bonne figure pour mieux plaire. Seulement, il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus jouer, il ne pouvait plus faire semblant. Et à un moment donné, il voulait être. Et c'est un peu le retour de l'enfant, vous voyez, le retour de l'enfant Bernanos qui nous appelle à redevenir des enfants. Et bien là, dans des cas extrêmes, au cœur du sport business, dans ce qu'il y a de plus médiatisé, de plus écrasé d'argent, il s'est passé un événement tragique qui relève vraiment de la dramaturgie non seulement sportive, humaine, mais aussi spirituelle. C'est le retour de l'enfant qui dit qu'on ne touche pas à sa mère. Le sport, il agit comme un zoom sur nos vertus, mais aussi sur nos vices. Et à travers le geste de Zidane, c'est ce zoom qui s'est opéré. Cette humanité réelle et non virtualisée ou moralisée, c'est ce que saint Augustin appelle la permixtio. C'est ce mélange, cette mixture en quelque sorte, cette difficile cohabitation en chacun d'ombre et de lumière. Un enchevêtrement de tensions contraires, d'égoïsme et de bonté, d'orgueil et d'humilité, de violence et de paix. Notre être est malléable et perméable. Repensons vraiment souvent à cette anecdote de Zidane. Alors, de façon un peu moralisante, on voudrait dire, oui, c'est pas un bon exemple pour nos enfants, il s'est mal tenu, la violence, nous sommes des artisans de paix, etc. Mais repensons toujours à cette âme de l'enfant qui ne veut pas que sa mère soit injurié. la chanson de Brassens, vous savez, comme la prière de Brassens de l'enfant qui prie parce que sa mère a été injuriée, et là, Zidane le refuse. Voilà, notre être est fragile, cette permixtio, ben, le sport a creusé un peu au cœur de tout ça. Et Platon, travaillant justement cette épaisseur de la pâte humaine, il utilisait l'image d'un char mené par deux chevaux. L'un était noir, puissant et fougueux, l'autre est blanc, calme et docile. C'est un peu l'illustration de la force opposée à la tempérance. J'ai travaillé avec beaucoup de joie dans les courses hippiques. Moi, j'étais plutôt au galop, mais dans les courses de trot, le driver, vous savez, sur la petite charrette qu'on appelle un sulky, le driver, il dispose de deux rênes. Et Platon utilisait aussi l'image du, pas du sulky, mais du char. Et les deux rênes, il y en avait un qui symbolisait la volonté et l'autre la raison. Et nous, en tant que chrétiens, bah, on rajouterait dans la mobilisation de notre personne, on rajouterait à la volonté et la raison aussi le souffle de la grâce. Nous avons quelque part, un peu toujours au-dessus de nos épaules, comme dans les albums de Tintin, ces deux petits anges qui sont là, sur nos épaules, malicieux, l'un rouge, vif, écumant, l'ange tentateur, et puis l'autre immaculé et innocent. Et notre choix de vivre parfois se déroule au rythme de ce micro-combat de piteuses trahisons et des auto-trahisons. Vous savez, quand vous sentez monter en vous de belles choses, et puis par paresse, par négligence, vous les étouffez bien profond, ou bien vous procrastinez, vous essayez de les repousser au lendemain. Toutes ces piteuses trahisons, mais aussi des réjouissantes conquêtes. Voilà, on est au cœur de cette permixtio, sur la brèche, quelque part, sur la brèche entre le vice et la vertu. Un penseur sportif expliquait que dans le sport, le dopage, c'était une forme de castration de soi et des autres. Je pense qu'il en est ainsi du péché pour le chrétien. Les compromissions, les lâchetés, les abandons auxquels nous cédons quotidiennement nous coupent de notre véritable identité, comme si elles nous castraient, c'est-à-dire qu'elles coupent ce qui donne la vie et ce qui donne l'identité. Le péché nous émascule en quelque sorte en tarissant la source de bénédiction dont nous devons être les émetteurs. Par le péché, nous trichons. Et notre façade, elle apparaît souvent presque pure et immaculée, sachant que derrière la porte du placard, eh bien, il y a contradiction, immondice et vice. C'est tout l'enjeu de l'unification de la personne humaine. Et il y a une belle expression anglo-saxonne qui dit walk the talk, c'est-à-dire que je marche mon discours. C'est ce qu'on appelle aussi la congruence dans le monde sportif, c'est cette cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et d'ailleurs, Woody Allen, évoquant la question de l'adultère, un jour avait une phrase intéressante, il disait: « Je ne suis pas assez intelligent pour mentir. » Et je pense à toutes ces personnes qui ont des doubles ou des triples vies, elles doivent être dans un état de bouillonnement intérieur entre le souci du paraître, vertueux, gentil, crédible, et puis derrière, ben, finalement, la conscience du péché, de la contradiction. Le sport et ses pseudo-vertus morales viennent mettre en exergue sur le terrain médiatique et symbolique, finalement, ces combats inscrits dans le cœur de l'homme, dans le quotidien de notre état de vie. Quand je dis le sport et les pseudo-vertus morales, il y a des vertus morales, mais dans l'humanité qui va être travaillée par le sport. Il est ainsi intéressant de constater que la société projette sur le sport, mais aussi sur la religion et le catholicisme en particulier, la quête de valeurs qu'elle voudrait souvent défendre, voire promouvoir. La société reconnaît que ces communautés, ces corporations, qui sont souvent dotées de règles, de principes forts et inclusifs, finalement devraient, eh bien, être exemplaires. Et moi, alors c'est ma vision, on peut le contester, je vois dans cette férocité à dénoncer les dérives comportementales dans le monde ecclésial, dans le monde sportif, comme finalement une reconnaissance du dépôt au sein de l'Église, au sein du monde sportif, de quelque chose de qualitativement supérieur à ce qu'on voit de façon générale dans la société. Comme s'il y avait un besoin de cohérence et d'exemplarité tirée du monde sportif et tirée du monde religieux. C'est quelque part une bonne nouvelle, c'est le dirigeant de cette association missionnaire américaine qui s'appelle Focus disait « Bad news is good news ». C'est quelque part une bonne nouvelle qu'on attaque tant l'Église, en particulier quand elle n'est pas cohérente, parce que ça veut dire qu'on attend quelque chose d'elle. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'indifférence et il n'y a rien de pire que l'indifférence. Les philosophes Fabrice Hadjadj et Jean-Luc Marion, depuis longtemps déjà, ils tempêtent à juste titre contre cette rhétorique de la défense ou de la promotion de, j'ouvre les guillemets, des valeurs chrétiennes. Comme s'il y avait un combat pour les valeurs empêtrées dans un esprit français finalement très rationaliste, pudibond, clérical. Et on confond souvent et malheureusement de bonne foi la transmission de la foi avec des valeurs chrétiennes qui sont plus en rebond d'une certaine bienséance sociale. On n'est pas là pour transmettre des valeurs. Si on dit la valeur de la famille, dans tous les camps autour de la plurifamille, des nouvelles formes de parentalité, du polyamour, les personnes de bonne foi vont vous parler des valeurs de la famille. Qu'est-ce que ça veut dire, les valeurs de la famille? Il y a des principes de fidélité, il y a des principes d'altérité dans le mariage, mais ce discours vaporeux autour des valeurs de grâce, essayons de le remettre en cause pour lui donner beaucoup plus de consistance et éviter trop de bêtises. Il y a toujours ce risque aussi, il me semble, et je vais être un peu provocateur, que pendant longtemps, de façon un peu bourgeoise, on pensait qu'on transmettait des valeurs chrétiennes, on transmettait la foi, un peu comme on transmet de l'argenterie de famille. Et c'est pas ça. Et quand on est à l'école de Jean-Paul II, on essaie de comprendre les leviers de la transmission de la foi. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on observe? Que la foi, elle se transmet par la mémoire et le témoignage de gestes. Par la mémoire et le témoignage du martyr de notre personne. C'est-à-dire le témoignage vivant par notre corps, par des gestes, finalement, de la foi qui nous anime. Et saint Jean-Paul II avait dit « J'ai commencé mon séminaire, mon petit séminaire à la maison, en surprenant mon papa en prière, seul, jeune veuf, sous-officier dans l'armée polonaise, en surprenant mon papa en prière. » Et je dis souvent dans l'accompagnement des pères de famille, mettez-vous à genoux, embarquez vos enfants dans les actions de charité que vous menez. Ne soyez pas en retard à la messe le dimanche, vous n'êtes pas en retard quand vous allez au cinéma ou que vous avez des rendez-vous pour le business. Il faut montrer à nos enfants par des gestes concrets et incarnés que la foi, c'est ce qu'il y a de plus présent et de plus riche au cœur de nos vies. Vous savez, quand on fait la prière en famille, quand on a des jeunes enfants en famille, moi je me souviens, on avait 4-5 là, et je me mettais un peu en retrait, on mettait le coin prière avec la petite bougie. Il y avait toujours un débat pour savoir quel enfant allumait les bougies et surtout lequel l'éteignait sans se brûler. Et les enfants, semaient la pagaille pendant la prière. Il y en avait toujours un qui donnait un coup de coude ou un coup de genou à l'autre, et puis voilà. Et mon premier réflexe en tant que père de famille, eh bien, c'était, alors que j'étais, voilà, ils étaient, les enfants étaient entre le coin prière et moi, eh bien, c'est de prendre un enfant, de lui faire une clé de bras, et puis finalement de l'exfiltrer en dehors de la cohue, et puis moi de rester un peu comme surveillant, censeur. Et un jour, un ami m'a dit, mais Arnaud, c'est pas ce qu'il faut faire. Mets-toi le plus proche possible du coin prière, tourne ton regard vers le Christ, ferme les yeux et prie. Et là, les enfants commenceront à chahuter, une fois, deux fois, trois fois, et tu resteras calme, stoïque, en prière. Et tu verras au bout de la deuxième, troisième fois, ils te regarderont, ils verront vers qui se tourne ton regard, et ils seront calmés. Ils seront calmés parce qu'ils verront un père en prière. Et c'est ce qu'il y a de plus sécurisant, plutôt que d'avoir un surveillant. Et je voudrais vous partager cette petite anecdote parce que ça a un peu transformé, je crois, ma façon de vivre la foi en prière. Et c'est intéressant parce que ce qui fait la différence, ce ne sont pas des mots, c'est une posture corporelle avant tout. Et donc, c'est éminemment sportif. Vous savez, je dis souvent, la finalité du sport, c'est ce geste juste. Et le sport, à travers tous les exercices qu'il promet, il se révèle vraiment être un terrain hautement favorable au déploiement de toutes ces vertus chrétiennes qui nous animent. On a évoqué les vertus cardinales, la force, la tempérance, la prudence. hein, la justice. Et dans la vie sportive, la discipline et le respect de la règle affermissent en nous l'obéissance, ce sens de la justice et de l'humilité. L'aventure collective dans l'équipe qui encourage la force, la générosité, la charité, le pardon, les efforts et tous les renoncements consentis à l'entraînement qui cultive la tempérance, l'ascèse et la chasteté. C'est très intéressant parce que quand vous allez dans des vestiaires sportifs, vous avez comme ça des vertus. Alors on dit des valeurs en général sportives, mais ce sont plus des vertus humaines qui sont affichées, placardisées, humilité, solidarité, dépassement de soi. On pourrait même mettre espérance, foi, il faut avoir foi en soi, foi dans l'équipe. Et puis évidemment charité, et là je reprends toutes ces métaphores merveilleuses autour de la passe comme la manifestation de cette charité où le bonheur de l'autre est votre propre récompense, disait Daniel Herrero, l'entraîneur célèbre entraîneur de Toulon. Et à travers tout ce discours finalement sur les vertus humaines, sur la permixio, cette patte humaine malaxée avec ses vices, ses vertus, ses petites tentations, ses petits actes d'héroïsme quand vous résistez à la tentation, je trouve qu'on est assez loin d'un discours un peu imprécateur et sucré sur les valeurs. Je vais vous partager un petit extrait d'homélie du pape Benoît XVI à la messe des Journées mondiales de la jeunesse à Cologne en août 2005. Il disait la chose suivante. Si nous pensons et si nous vivons dans la communion avec le Christ, alors nos yeux s'ouvriront. Alors nous ne nous contenterons plus de vivoter, préoccupés seulement de nous-mêmes, mais nous verrons où et comment nous sommes nécessaires. En vivant et en agissant ainsi, nous nous apercevrons bien vite qu'il est beaucoup plus beau d'être utile et d'être à la disposition des autres que de se préoccuper seulement des facilités qui nous sont offertes. Si nous vivons dans la communion avec le Christ, alors nos yeux s'ouvriront. Alors nous ne nous contenterons plus de vivoter, préoccupés seulement de nous-mêmes, mais nous verrons où et comment nous sommes nécessaires. En vivant et en agissant ainsi, nous nous apercevrons bien vite qu'il est beaucoup plus beau d'être utile et d'être à la disposition des autres que de se préoccuper seulement des facilités qui nous sont offertes. Notre seule valeur, finalement, cotée sur aucun marché ou bien sur un marché universel qui n'a pas de cote, notre seule valeur, c'est notre foi, qui est cette relation vivante avec la personne du Christ, vrai Dieu et vrai homme, né de la Vierge Marie, mort et ressuscité pour notre salut. Et profitons de cette semaine sainte pour nous plonger plus en avant, plus profondément dans ce mystère du Christ, vrai Dieu et vrai homme, né de la Vierge Marie, mort et ressuscité pour notre salut à chacun d'entre nous. Dans ses faiblesses et toute sa sainteté, l'Église, avec ses saints du ciel et de la terre, avec ses pasteurs que nous devons accompagner comme des frères, et qui vivent aussi un combat en première ligne de l'évangélisation, cette belle Église, avec ses faiblesses et sa sainteté, elle nous supporte dans la compétition de nos existences. Elle nous supporte comme des supporters qui vont être un peu, vous voyez, ce 12e homme ou ce 16e homme, 12e homme en foot, 16e homme en rugby, qui va de façon fidèle être là, à disposition des joueurs pour leur dire « Je crois en toi, je fais des sacrifices pour toi, je suis à ta disposition et voire je me déplace pour te soutenir. » C'est intéressant la relation entre les supporters et les champions. La foi des supporters, la fidélité des supporters qui s'éprouve non seulement dans la victoire, ça c'est toujours facile, mais surtout dans la défaite. Dans la défaite, il y a où arrive cette tentation d'abandonner et de passer à quelque chose peut-être de plus facile, de plus glamour, de plus fugace aussi. L'Église, elle nous conduit pour nous éviter, pour reprendre l'expression de Benoît XVI, pour nous éviter de vivoter. Elle est à nos côtés, elle est au soutien, pour reprendre une métaphore rugbystique. Vous savez, quand les joueurs perforent les lignes adverses et ont ce moment de se retourner, et puis avec cette question, est-ce que dans la brutalité de ce geste, est-ce que dans la vitesse d'exécution de ce geste, où je vais tomber au sol en me retournant, en pivotant, est-ce que je vais voir un coéquipier qui porte mon maillot? Et là, ça va tellement vite. Il y a aussi ce mélange de peur et d'excitation. Je l'ai vécu au cœur vraiment de cette mêlée rugbyman. On se retourne et on se dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte la couleur de mon maillot? Et là, celui qui est au soutien, ça veut dire qu'il croit en moi. Ça veut dire qu'il va permettre au ballon d'avancer et il va relayer mon action. Et là, dans cette lucidité exceptionnelle du rugby, il faudra pivoter, se tourner et avoir ce mouvement de bras pour lui tendre cette offrande, ce ballon, pour que le jeu continue et que le ballon avance. C'est intéressant cette notion de soutien. C'est cette chaîne aussi du ciel et de la terre. Et puis c'est cette chaîne, cette filiation. Saint Jean-Baptiste qui disait « il faut que je diminue pour qu'il grandisse ». Et finalement, en regardant le tournoi des Six Nations, là, je voyais les joueurs qui tombaient et puis qui transmettaient, alors qu'ils étaient au sol, ils transmettaient le ballon pour que le ballon vive et pour que le jeu continue. C'est un peu Saint Jean-Baptiste qui tombe et qui dit « je transmets le relais au Christ ». Et nous, depuis 2000 ans finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on transmet ce relais. On voudrait nous faire taire, on voudrait nous bâillonner, on voudrait nous caricaturer, on voudrait nous décourager. Mais ça fait plus de 2000 ans que ça dure. Il y aura toujours cette chaîne exceptionnelle d'offrandes de baptême avec ces ministres institués par la grâce des évêques descendants de Pierre, et puis ces baptisés. Et puis la chose la plus subversive qui soit, c'est la fécondité des martyrs. Plus on voudrait nous faire taire, plus on veut finalement voulant martyriser les chrétiens, et plus finalement avec cette expression magnifique de Tertullien, plus on réalise que le martyr est semence de chrétiens et de saints. Alors voilà, l'Église, elle nous conduit pour nous éviter de vivoter. Elle est à nos côtés au soutien pour affermir et partager avec nous cette précieuse et unique relation qui nous lie au Christ. Et voilà, donc en conclusion, chers amis, comprenez que ce discours un peu sur les valeurs, eh bien c'est du pipeau. La seule valeur, c'est le Christ. La seule valeur chrétienne, c'est le Christ. Ensuite, il y a des vertus, il y a des principes. Le sport, que fait le sport? Il est juste là pour révéler notre humanité. À travers l'intelligence de la règle qui va libérer le jeu, on va observer avec un peu plus intensément, finalement, ce qui fait la richesse de la personne humaine, l'unité de cette personne humaine, corps, âme, esprit. Et puis, quand le jeu s'accélère, d'aller chercher plus profond pour voir les ressorts de notre humanité. Avant la petite prière finale, je voudrais vous partager tout simplement, alors ça peut être un coup de casque ou un tacle, mais un peu une vraie tristesse par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours, et en particulier par cette décision de constitutionnaliser l'avortement, même si on s'y attendait, et puis d'avancer sur l'euthanasie. Et qu'est-ce qu'on voit en quelque sorte? On voit aujourd'hui que le sport, c'est le risque, le sport, c'est l'aventure, c'est quelqu'un qui s'expose. Et on est dans une société qui voudrait, je l'ai évoqué au début de mon propos, qui voudrait un peu tout contrôler, tout domestiquer, et qui va utiliser cette expression et même cette posture du care pour soigner. Mais ce n'est pas pour soigner pour permettre à l'autre de grandir, mais pour soigner pour mieux endormir, voire pour mieux étouffer. Et la solidarité humaine, c'est quoi? C'est le partage, l'explosion finalement, l'adversité qui va confronter deux vulnérabilités, deux risques. Et la beauté de la personne humaine et la beauté de la confrontation dans le sport, c'est cette adversité, c'est cette confrontation, d'où va naître un affrontement qui va élever le niveau de jeu, d'où va naître une solidarité l'adoption d'une règle. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit arriver progressivement au nom du CARE? Et là, il y a cette phrase absolument insupportable du président de la République qui va convoquer la fraternité pour mieux justifier demain le suicide assisté et l'euthanasie, qui va être finalement l'exécution mortelle d'une personne avec qui on aura partagé du temps, une mémoire, etc. Mais voilà, au nom de ce CARE, qu'est-ce qu'on va faire? On va progressivement évacuer tout ce qui est risqué, tout ce qui va convoquer en nous des vertus de solidarité, d'écoute, de compassion. C'est trop dur pour ça. C'est trop dur pour les gens qui sont de la Startup Nation, qui sont pressés. C'est trop dur de compatir, de souffrir avec. C'est trop dur aussi d'éprouver nous-mêmes une souffrance. Vous savez que souvent, la personne qui est témoin de la souffrance de l'autre, elle souffre elle-même. Et donc, on refuse, par manque de courage, par manque de force, on refuse cela et donc on veut y mettre un terme. Et je crois que, vous voyez, c'est comme s'il y avait des forces aujourd'hui qui vont vouloir externaliser ce risque. L'externalisation du risque, ça commence, pour faire place nette aux Jeux Olympiques, d'enlever toutes les personnes qui sont en situation de vulnérabilité, tous les SDF, on va les mettre dans des hôtels très très loin de ce gigantesque parc d'attractions que va devenir Paris. Externaliser le risque, c'est évidemment de ne pas accueillir la personne faible, fragilisée, les réfugiés. Externaliser le risque, c'est que quand l'imprévu arrive, quand un embryon arrive, on dénie son existence humaine pour mieux le supprimer. Externaliser le risque, c'est vouloir abréger les souffrances d'un proche malade qui a encore des choses à dire et qui a encore une solidarité et énormément d'amour à mendier. Et on a comme ce mouvement d'expulsion complètement, qui aussi manifeste une peur, mais d'une grande violence. Et je repense à l'hygiénisme et à l'eugénisme aussi des régimes totalitaires qui, avant tout, ont été conduits par des exigences d'ingénierie sociale. Une ingénierie sociale pour tout contrôler, pour tout domestiquer. Et tout ce qui pouvait échapper au contrôle de ces grands ordinateurs devait être externalisé. Et une façon de l'externaliser, c'est quoi? C'est de le supprimer, tout simplement. Et là, on va vouloir le supprimer au nom d'une forme perverse, finalement, de fraternité. Il y avait une phrase, je me souviens, qui avait un peu bercé mon enfance. On l'avait attribuée à Nietzsche, mais je ne sais pas si c'est... Je n'ai jamais pu la sourcer et l'attribuer réellement. Mais c'était une phrase qui disait la chose suivante, qui est terrible, glaçante, qui disait « Les pauvres, les impotents, il faut les éliminer. C'est le premier devoir de notre charité. » Chers amis de Radio Maria, si on aime le sport, c'est parce qu'on aime la vie, c'est parce que nous aimons le risque, c'est parce que nous aimons cette expression de besoin qui va permettre le surgissement de la charité et de la solidarité. Si nous aimons la vie humaine, c'est parce qu'elle nous est donnée par le créateur de toute vie humaine, le Christ qui est mort et ressuscité pour nous. Voilà, et je voudrais, en ce début de Semaine Sainte, voilà, je vous ai partagé un peu un coup de gueule, mais je voudrais réellement que chacun, finalement, on a tous un peu peur hein, de l'avenir, on a tous un peu peur des questions d'insécurité, mais le Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas eu peur. Il a eu cette nuit de tentation par rapport au découragement, il a transpiré des larmes de sang. Il a crié vers son Père, mais il a consenti à donner sa vie pour chacun d'entre nous. Suivre le Christ, c'est s'exposer à l'adversité. C'est accepter, comme disait le pape Benoît XVI, que nous ne sommes pas faits pour le confort, mais nous sommes faits pour la grandeur. Alors je vais terminer cette petite chronique, chers amis de Radio Maria, par un petit texte de Dostoïevski sur le retour du Christ. Attendons encore une semaine, mais positionnons-nous déjà dans cette joie qui va prendre de plus en plus de place dans notre cœur de l'arrivée du Christ, du Seigneur ressuscité. Et Dostoïevski disait la chose suivante. « Et il rendra justice à chacun, et il pardonnera les bons comme les méchants, et les sages comme les humbles. Et quand il en aura fini avec les autres, alors sa parole, s'élèvera vers nous. Sortez ! Il dira à votre tour, sortez, vous les petits pochards, vous les très faibles, sortez, vous qui vivez dans la fange. Et là, nous tous, nous sortirons, sans avoir honte, et nous nous lèverons. Et il dira, porc que vous êtes, à l'image de la bête et de son sceau. Mais vous aussi, venez à moi. Et les très sages alors diront, oui, ils diront les raisonnables, Seigneur, cela, pourquoi les accueillir ? Et il dira, si je les reçois, vous les très sages, si je les reçois, vous les raisonnables, c'est que personne d'entre eux ne se croyait digne d'être reçu. Et il tendra vers nous ses mains, et nous tomberons, et nous pleurerons, et nous comprendrons tout. Alors oui, nous comprendrons tout. Et tout le monde comprendra, ô mon Dieu, que votre règne arrive.